Le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici Le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3 minutes, Denis Gravel qui est en place pour le Pit Stop. Pascal CV qui est là pour nous assister, pour nous surveiller, pour être la maman.
Non, les gars, l'air horrible,
faites pas ça. Je suis la grande personne.
Ça a l'air horrible, mon poste.
Ben oui.
Finalement, je suis éducatrice en garderie.
C'est ça. T'as-tu toujours eu quelqu'un comme ça pour te surveiller?
Toujours.
Pourquoi on nous
elle s'appelle Véronique Bergeron.
Ouais.
Pourquoi on nous donne ces rôles-là? Maudite radio poubelle.
Je sais pas. Peut-être parce que vous êtes des personnes sensibles ou sensées.
C'est tellement fin, Renard.
Je préfère dire sensé.
Dans un orchestre, on peut pas tout jouer du violon.
Ouais.
Ça prend des gens qui ont des rôles différents, des forces différentes.
Là, tu me dis que je suis une bonne flûtiste?
C'est à toi de voir. Mais mettons que pour l'encadrement, autant moi que Marceau, je pense qu'on a besoin d'aide. On a besoin de beaucoup d'assistance.
Oui. Oui. Ouais,
pour notre encadrement, l'encadrement d'une émission de radio, trois dans ton cas, l'encadrement en général.
Fait qu'on est payé à vous faire chier.
Un peu.
Beaucoup.
C'est un bon résumé.
Oui, mais si j'étais à l'Orchestre symphonique de Québec, qu'est-ce que je ferais? Moi, flûte, non, ça m'intéresse pas.
Non, t'aurais le maracas.
Non.
Ça ajoute quelque chose, mais on sait pas trop.
Le triangle.
Ah, ben oui, pas trop d'efforts.
C'est pire.
Tu sais, celle-là que tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui crisse là?
Puis encore là, manque pas la fois que tu t'en sers dans deux heures de symphonie. Là.
Hein? Sinon, t'arrives à la maison, t'es obligé de le dire.
Ah oui, puis là, tu dormiras pas de la nuit. Hey, j'avais un coup de triangle à faire, je l'ai manqué de 3 temps.
Do your job.
Ah, là, il y a des mononcles qui écrivent en disant « Les talents de flûtiste de Pascal, c'est merveilleux.
» Ben là, c'est vrai qu'elle a sauté sa flûte tout de suite. Hein?
Ah non, mais je fais de traversière, puis...
Ouais.
En même temps.
Flûte.
Tu sais, quelqu'un qui veut penser croche aurait dit bon, ben, si t'avais dit chef d'orchestre, on sait bien que tu voulais avoir une baguette dans les mains.
Ben, c'est ça.
On aurait probablement trouvé une allusion
harpiste,
sexuelle de mauvais
gros.
Goût avec tous les instruments.
Peu importe ce que je disais, même harpiste, t'aimes ça gros.
Ouais, c'est ça.
Ah, oh. Ouais.
Saxophoniste, tu le lâches pas. Tu sais, c'est comme.
Ouais.
C'est correct, gang, là.
OK, c'est correct. Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai détesté le plus du budget du gouvernement du Québec hier?
son entièreté?
Non.
Non?
Ce que j'ai détesté le plus, c'est leur attitude, leur sourire de présenter un budget avec un déficit de 14 milliards de dollars.
Au
Ces
mieux.
Gens-là ne sont même plus gênés. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des joueurs de casino, là.
Il avait l'air de présenter un livre pour enfants, Éric Girard puis François Legault, quand ils sont arrivés avec le livre.
Tout
là,
sourire.
Le grand sourire niaiseux. Alors que... Tu parles d'un déficit de 14 milliards. Ça, c'est le scénario le plus optimiste.
Ouais.
Puis les gens qui ont la tête plus froide que toi puis moi vont dire que c'est carrément jovialiste.
C'est basé sur le 10 % des tarifs américains, alors que techniquement, pour l'instant, c'est 25 %
Puis le 10, on a juste décidé de le mettre là pour faire beau. Là. C'est basé sur absolument rien.
On a joué au casino, là.
Bien, c'est pas la première fois. Écoute, Nordvolt, Lyon Électrique, on ressort tout le temps les mêmes exemples, mais ça fait longtemps qu'on joue au casino avec l'argent du monde. Et un budget, je trouve plus que c'est... Puis je sais pas si ça l'a déjà été. On devient peut-être juste plus vieux puis plus cynique, mais un budget, maintenant, c'est un pitch de vente. Nous autres, quand on fait notre budget, on peut pas faire un pitch de vente. Mettons que j'arrive là avec un planificateur financier puis que je fais mon budget comme le budget du Québec a été fait hier. Ah, oh, ben, si j'ai une augmentation de salaire de 75 000 $ l'an prochain, je peux penser à m'acheter une maison. Regarde, hey, je vais t'arrêter tout de suite. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas avoir une augmentation de salaire de 75 000 $? Ça repose sur quoi? Ben sur absolument rien. J'aimerais ça. OK. Le chiffre, tu l'as pris où? Ben c'est un beau chiffre, hein? 75 000. T'as-tu une base factuelle pour penser que tu vas avoir un 75 000 d'augmentation? Ben non. Je me dis juste que ce serait le fun. C'est rendu ça un budget pour une province.
Mais imagine-toi, ici, c'est le contrôleur que j'aime bien appeler l'homme à la couille de fer. C'est le contrôleur arrivant en disant « Hey, savez-vous quoi, le budget cette année, là, on va être déficitaire de plusieurs centaines de milliers de dollars » puis qu'il présentait ça avec un grand sourire. À quel point ça pourrait être mal perçu dans une entreprise? Bien là, c'est tous les députés de la Coalition Avenir Québec qui ont applaudi à qui mieux le ministre Éric Girard pour ce budget-là qui est une catastrophe. C'est cette attitude-là que je déteste. Moi, hier, là, si j'avais été François Legault, le mot d'ordre, là, c'est « je veux pas un crisse de sourire ». Puis on commence à travailler à partir d'aujourd'hui. Là.
On parlait avec Francis Gosselin hier en fin d'émission, puis lui, son feeling de les voir aller, c'est de dire que ça n'a même plus de l'air de le tenter de travailler, tu sais. Au-dessus de leurs affaires, avec le sourire niaiseux, puis on prend pas ça au sérieux, les chiffres qu'on présente aux Québécois. On essaie d'être optimiste alors qu'on sait qu'il n'y a rien qui tient là-dedans. Donc, la situation est très grave. On demande des coupes majeures dans des ministères clés. Et si les objectifs sont pas respectés, il arrive à rien. Puis on réécrit les affaires à l'autre budget, comme on a fait avec là, l'Agence santé. C'est du bluff. C'est carrément du bluff.
La
c'est pas un budget.
La déconnexion est le risque actuellement. Puis on la voit beaucoup. Je comprends, c'est un défi majeur à leur défense. Là. C'est vraiment pas une belle époque là, pour être au gouvernement, surtout pas aux finances.
Ben, c'est de leur faute. Ça fait 8 ans qu'ils sont là.
Mais l'affaire est que faudrait que ça soit un méchant beau défi. Puis je vais faire un parallèle épouvantable, mais quelqu'un qui a un toc complet, ses chiffres, là. Moi, c'est ça que je veux au gouvernement en ce moment-là. Qui en mange, qui en est excité, qui a du plaisir, que pour lui, là, ça, c'est le défi de sa vie. Avec une envie complète d'essayer de parfaire tout ça puis de rendre le budget beaucoup plus acceptable qu'actuellement et non quelqu'un désillusionné, déconnecté, qui vit dans le déni parce qu'il trouve ça trop tough.
Mais il s'est fait applaudir hier. Tu sais, il y a des trucs que je comprends pas. Là. Bon, là, c'est la fin de la lune de miel, nous dit-on, entre le gouvernement puis les propriétaires ou les futurs propriétaires d'auto électriques. D'un côté, on les taxe, puis de l'autre côté, on repart les subventions.
Ouais.
Mais comment on peut faire les deux en même temps?
Ben,
comment on peut les taxer et les subventionner?
C'est un peu ça, un exercice budgétaire. Il faut tout le temps que tu trouves des moyens de bien paraître. Alors, même quand tu fais des coupes importantes pour tout le monde, il faut que tu réussisses à trouver des petits nananes à quelque part pour calmer certaines clientèles. C'est pas des gens qui sont des maniaques de chiffres qui font des budgets. Maintenant, c'est des experts en communication puis des firmes de marketing qui essayent de nous vendre un budget bidon, bluffé, qui n'existe pas. Il n'y a rien qui va tenir dans ce budget-là quand on va se revoir l'année prochaine pour faire un autre budget. Les tarifs, 10 %, c'est basé sur quoi, ça? Absolument rien. On demande, tu sais, pour faire beau des fois, là, on investit 5 milliards dans les infrastructures à titre de 1 milliard par année. Puis l'année d'après, c'est plus ça. T'sais, on veut faire des gros chiffres sur 5 ans, sur 10 ans. C'est de l'enflure verbale. C'est basé sur rien. Le gouvernement change même pas. C'est les mêmes qui reviennent. T'sais, Éric Girard, c'est pas son premier, là.
Non.
Il y a des affaires qui tiennent plus du budget de l'année passée. Fait que quand il va revenir l'année prochaine, il y a encore des affaires qui tiendront pas. C'est dur de prendre ça au sérieux.
Voiture de luxe, c'est quoi pour vous autres au 418-971, une voiture de luxe? Combien ça vaut, une voiture de luxe? Moi, mes yeux à moi... Une voiture de luxe, c'est 90, 100, 110, 120, 130, mais on dit ces montants-là, puis il y a des gars de construction qui ont besoin de ce type de véhicule-là. Fait que c'est pas du luxe pour eux autres. Ils en ont besoin pour travailler. Mais une voiture de luxe pour toi, Denis, ça serait quoi si t'avais pas vu les chiffres?
Ben moi, je suis au gouvernement de la CAQ, là. À partir de 4 pneus, je commence à trouver que t'es au-dessus de tes affaires.
Pascal?
Hey, moi, là...
Moi, j'aurais dit, je suis très honnête avec toi, là, 80, 90, 100, mais encore là, il y a des nuances parce qu'il y en a qui ont besoin de leur camion pour travailler.
Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Puis en plus, ben, c'est la dernière affaire avec laquelle je trouve que c'est dans le luxe, ma voiture.
Donc, les propriétaires de voitures de luxe devront payer 1 % de plus sur la valeur marchande des autos au-delà du 40 000 $ pour tenir compte de la hausse des prix des voitures.
Il gratte où, là?
Québec fait passer le seuil à 62 500 $
À 62 500 $ là? Moi, le concept d'une voiture de luxe, là, c'est que d'une voiture de luxe, normalement, deux poches de hockey d'enfants de 9 ans puis 11 ans, c'est supposé rentrer. Là. Il y a beaucoup de véhicules à 62 500 $ que t'es pas capable de rentrer deux poches de hockey.
Ben, il y a des gens qui roulent dans des véhicules aujourd'hui là, qui ont appris par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec hier qui était dans un véhicule de luxe, ben, selon le gouvernement.
C'est le fun. C'est comme changer de char, mais pas vraiment. T'sais, hier, tu roulais d'un char. Aujourd'hui, tu roules dans une voiture de luxe, ce qui n'est pas une bonne nouvelle au niveau
fin
financier.
Fin des crédits d'impôt pour la médecine douce, fin du crédit d'impôt pour les dons politiques municipaux, des frais de garde pour enfants seulement jusqu'à 14 ans. Avant, c'était jusqu'à 16 ans. Abolition du bouclier fiscal. Donc, on met la hache là-dedans aussi. Mais c'est ça. Des petits changements qui vont toucher notre quotidien, qui vont faire en sorte qu'on va devoir encore sortir plus de l'argent de nos poches. Mais eux étaient tout sourire. Et ça, c'est l'insulte ultime.
Puis, il n'y a pas de vision. Je veux dire, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision. On a deux grands projets à Québec. On les a encore mis, encore, sur le back burner. Faites-nous confiance. On a l'argent. On fait juste attendre. Attendre quoi? le train, le changement de gouvernement, que les conservateurs disent non, que les libéraux disent qu'on n'a plus une scène. Vous attendez quoi? On attend. On aime ça attendre. C'est complètement ridicule. C'est insultant.
J'ai le goût de faire un test avec vous autres. Pascal, ton salaire exact, c'est quoi?
C'est comme mon poids. Oublie ça, on n'en parle pas en nombre.
Le poids,
le jour où tu apprends, je suis plus payé que toi, tu vas prendre un 2 minutes.
T'es entre 120 et 130 livres. Je suis dedans?
Non.
127.
C'est 127. Quoi, c'est quoi le jeu, là, dans le fond?
2 livres.
OK. C'est quoi le jeu, là?
Mais
Denis fait le pit stop, là, je te rappelle.
223.
Où va votre argent, OK? Si tu fais un salaire brut de, tiens, je vais prendre 65 000 piastres.
Hey, je t'avais montré cet outil-là. C'est la chose la plus extraordinaire du monde, honnêtement. Puis c'est de même que tu vas pouvoir apprendre à voter selon le parti que tu préfères, selon l'économie.
OK. Fait que mettons deux personnes qui font 65 000 piastres. Ça fait, techniquement, ça fait quoi? Ça fait 130 000 $
Oui.
Parfait.
Oui. Le compte est bon.
Charge fiscale. Tu payes combien en charge fiscale par foyer, là, si tu fais un revenu familial de 130 000?
35 000?
22 689.
J'étais trop haut.
Votre ménage paye environ 14 175 $ d'impôts au gouvernement du Québec en comptant les crédits non remboursables en plus des 8 514 $ de cotisation. Vous bénéficiez aussi de 0 $ de transfert. Donc, en charge fiscale, c'est 22 689 $. Taxe de vente du Québec, 5 000 piastres.
Wow! 5
074.
C'est un beau voyage.
Combien tu donnes en santé?
J'aime tellement cet outil-là.
On est encore à 130 000. Là.
On est encore à 130 000 revenus familial.
On doit donner 2 000?
Comment ça coûte une assurance aux États-Unis? Pour être assuré?
J'en ai aucune idée.
5-6 000 par année, à peu
ouais,
près.
Oui, à peu près.
Tu on peux donne, avoir on, une bonne assurance.
On donne combien?
Ici, par année, 11 949 $ Donc, ça représente à peu près 43 % de l'argent que tu envoies au gouvernement du Québec.
C'est cher si t'es pas malade.
Exact.
Ouais.
L'éducation, 6 200. Law and Order, 3 565 pour la police. L'économie, 1 500. Service de la dette, 1 500. Famille, 800. Affaires municipales, 700. Transport, 500. Environnement, 250. Et autres, on met 740.
C'est quoi que tu utilises pour avoir ces chiffres-là?
C'est directement sur le site de ICI Radio-Canada. Ah, okay. C'est le calculateur du budget du Québec. Puis tu vas rentrer ton revenu personnel, mm-hmm. si t'es seul, ou ton revenu familial. Puis ils vont te dire exactement comment ça te coûte.
Wow!
La fois que je l'ai montré à Yannick, là, il voulait tellement rien savoir. J'ai l'impression qu'il était dans le déni volontaire de savoir où son argent s'en allait.
On est quelques-uns, même.
Puis en même temps, c'est extrêmement intéressant parce que ça change selon le gouvernement en place. Fait que tu es capable de voir selon les ajustements des budgets, mais aussi pour voter. Puis encore là, il faut faire un parallèle qui est important. Faut pas oublier la nuance des filets sociaux qu'on a et qui vont sauver une couple de personnes, dont nous, personnellement, à un moment ou à un autre. Fait que si on compare juste les sommes qu'on y met versus où est-ce qu'on aimerait que notre gouvernement en place les mette.
En même temps.
Je veux dire, tout le monde va vouloir traverser aux États-Unis puis ils vont pogner un 2 minutes.
Ouais, vos filets sociaux, vous vous amusez beaucoup avec ces arguments-là, là, mais de plus en plus, on se retrouve avec des gens qui n'ont même pas accès à un médecin puis qui vont crever à la maison.
Ça a tellement détérioré. L'affaire est la nuance applicable dans ce cas-ci par rapport à l'argent qu'on met dans différents secteurs là, au gouvernement, là, en impôts puis en taxes. Là. C'est comment est-ce que vous l'administrez. Là, il est là le combat.
Ah, puis en
je
même
vais mettre
temps, moi,
sur Twitch en passant, le lien va être là.
Je comprends très bien quelqu'un qui décide de juste regarder c'est qui m'en laisse le plus dans mes poches puis je me contrefous du reste. Là. Mm. On est rendu là en 2025, là, on court après nos piastres. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à arriver, qui ne sont pas parmi les plus démunis, mais c'est une classe moyenne qui est de plus en plus aplatie. Puis,
j'aurais un débat avec toi sur ce sujet-là si c'était pas que je trouve que maintenant le gouvernement prend tout le temps la voie facile.
Moi, les seuls débats que je fais, c'est ceux-là quand Elisabeth May est invitée, donc je me dois de refuser ton
le parti vert. Mais pour vrai, mettons qu'on n'était pas dans l'ère actuelle où je trouve que les gouvernements prennent constamment la voie facile en imposant plus de taxes et impôts pour pallier à leur stupidité de gestion gouvernementale. J'aurais un débat. Mais là, j'en ai pas parce que je trouve vraiment qu'ils sont rendus médiocres.
C'est parce qu'ils veulent porter tous les chapeaux en même temps. On va être votre investisseur. On va être votre pourvoyeur. On va être ci, on va être ça. On n'a pas de vrais objectifs. On n'a pas de vraies priorités.
Ils sont déconnectés.
La priorité, c'est la santé. Je pourrais vous nommer 6 premiers ministres, un en arrière de l'autre, qui nous l'ont dit. Ça va-tu bien, le système de santé? C'est 6 bullshitters, un en arrière de l'autre. Combien de ministres de la santé? 22? 23 qui étaient médecins peut-être. Ah, formule Toyota, OK. Formule ci, formule ça, formule Saint-Hubert. Ah ouais, McDo, essayez-la toute, il n'y a rien qui marche. Ces gens-là nous disent n'importe quoi. Puis un coup qu'ils sont assis au gouvernement, tout ce qu'ils ont dit avant, ça compte plus. Amusez-vous, allez voir ce que la CAQ disait dans les estrades quand il était l'opposition.
Moi, je prends deux Lotomax, là, à soir.
Ouais.
Un pour moi, Audrey et les auditeurs.
OK.
Puis un autre pour moi tout seul.
Oui.
65 millions.
Mail pas, m'a dit. Mail pas et deux, ça va faire des histoires. Là.
Ben là, c'est ce qu'il faut que je fasse. Ouais. Il faut que je prenne une photo du Lotomax pour moi, Audrey et les auditeurs.
Ouais,
puis je prends
le
Lotomax pour moi. Puis tout ça, là.
On voit c'est qui sa favorite.
Tout hein? Ça, je vais oublier ça. Budget Gérard, tout ça. Moi, 65. Je m'en vais dans un paradis fiscal. Je vais faire comme Mark Carney. Là.
Mm-hmm.
M'a tout mettre mes patentes dans un paradis fiscal.
Ben, c'est ça que le monde riche font.
Ben oui. Puis contrairement à Mark Carney, moi, j'ai pas d'aspiration à faire de la politique, ce qui fait en sorte que je me ferai jamais écœurer. Mais tout ça, ça va être réglé par l'Automax.
65 millions de dollars dans ton compte en banque demain. Oui. Démissionnes-tu le jour même ou tu continues de travailler?
Je vais être tannant, là, mais probablement que je vais continuer à travailler, mais pas avec les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que ça m'implique d'être toujours sur place.
OK.
Faut que ça me permette de voyager, découvrir des choses.
Ouais, mais tu garderais un lien avec le,
ben oui,
avec le travail.
Je suis encore trop jeune pour prendre ma retraite.
Il y a des gens qui disaient que quand tu fais un métier comme le nôtre, si tu gagnes un gros montant, tu ne peux plus travailler parce que tu es complètement déconnecté à ton tour.
Ben, ça
gens.
Dépend de la personnalité. Je veux dire, les personnalités publiques, tu sais, Mario Dumont, là, il ne gagne pas la même affaire que les gens à qui il
non,
parle.
Non, mais tu comprends. Mettons plusieurs millions de dollars à la loterie. Là.
Il est capable d'être encore terre à terre. On avait essayé à Radio X Montréal. On avait essayé Caroline Proulx.
Ouais.
Puis elle, elle jasait en ondes de son chalet de 3 millions sur le bord d'un lac.
Tannant, hein?
Ça n'a pas fonctionné.
Ouais, ouais.
Ça n'a pas fonctionné.
Moi, je pense que ça ne va pas avec le salaire, ça va avec la vision que tu as, ça va avec la proximité.
C'est encore terre à terre.
Je pense pas que quelqu'un peut faire une année de radio à Québec à partir de la Floride. Tu peux pas être connecté sur ton monde, tu peux pas être ses bons sujets. Veux pas, t'es biaisé. T'es biaisé par ton milieu de vie, t'es biaisé par ce que tu vois autour de toi, puis tu peux le raconter à tous les jours, mais après 4 jours, ça va tomber ses nerfs du monde, même les plus fervents.
Est-ce que gagner un gros montant d'argent comme ça, un peu comme la vigueur, mettons, du jour au lendemain, c'est un peu comme le réflexe qu'on a de penser de la politique qui change automatiquement quelqu'un, que quelqu'un entre avec son bon vouloir, mais qui va toujours finir par être terni d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est un peu la même façon avec l'argent?
Moi, 65 millions de dollars, j'ai aucun bon vouloir. Ciao, bye, puis je vous revois dans 6 mois.
Toi, tu ne retravailles pas.
Je retravaille éventuellement.
Plus tard.
Mais je m'en vais voyager, je m'en vais vivre.
C'est la meilleure façon de se protéger parce que... Puis moi, je ne suis pas un gars stressé dans la vie, mais tu me donnes 65 millions et c'est là que tu me donnes tout le stress du monde entier parce que tu as des chums qui ont besoin d'argent.
Mm-hmm.
Tu as des voisins qui ont besoin d'argent.
T'es-tu content de ne pas avoir d'amis dans ce temps-là?
Tu as des enfants malades qui ont besoin d'argent. Non, mais tu sais, quelqu'un qui vient te voir qui dit hey, mon fils, là, il a le cancer généralisé, il est en fin de vie, puis il y a un traitement expérimental aux États-Unis qui est offert, puis ça coûte 75 000. Yann, tu l'as, tu peux-tu m'aider? Je vais te remettre cet argent-là plus tard.
Pis,
comment tu fais fermer la porte à ce gars-là?
Et la personne qui va gagner le 65 millions, son nom et sa photo vont être dans le journal. C'est pas des gens qui font de la TV, c'est pas des gens qui font de la radio, puis ils vont les recevoir, ces téléphones-là. Là.
On me dit, meilleur exemple, Denis est millionnaire et il est toujours terre-à-terre.
Qui t'a écrit ça? Je le veux comme planificateur financier.
Leclerc.
Hein? Ah ouais?
On dirait les lettres de notre boss.
La barnouche. Moi, je l'ai, mon contrat. Lui, il l'a dessus.
Ah, c'est encore viré dans le compte à Véro, je pense, cet argent-là.
Il y a des gens qui nous disent si je gagne 65 millions vendredi au Lotomax, je change de numéro de téléphone.
Ouais, je pense que t'as pas le choix de t'isoler. Puis tantôt, vous parlez d'amitié, là, de morceaux de casse-tête, puis ainsi de suite. Là, je n'ai pas mis un petit bout avec Audrey, là. Ça, c'est un vrai test, là. Tes vrais amis ne te demanderont pas une scène. Tes vrais amis, il faut que tu les connaisses avant, par exemple. Parce que là, tu vas en avoir des amis. Là, tu vas en avoir des amis en carton. Là.
Je me souviens pas de quel humoriste, parce qu'il a une meilleure mémoire que moi, parce que je sais qu'on avait déjà parlé ensemble, mais il y a un humoriste qui avait arrêté de payer pour ses chums d'un bar. Je sais pas si c'était une humoriste ou un humoriste. C'est-tu Mariana Mazza qui nous avait dit ça? Qu'à un moment donné, quand elle était dans un souper, les gens s'attendaient tout le temps à ce que ce soit
paye.
Cet humoriste-là qui paye. Je me rappelle pas si c'est elle ou si c'est un autre. Mais à un moment donné, elle acceptait, mais elle n'était pas nécessairement riche. Elle commençait, mais tout le monde disait « Hey, on te voit tout le temps à télé, tu dois être riche, tu sais. »
Puis, je pense que c'était elle, honnêtement.
Un moment donné, elle dit non, c'est ça, c'est fini. Tu sais, ça va être tout le monde les factures, puis moi, je vais offrir quand je vais avoir le goût.
Puis
de
elle disait, j'étais tellement généreux. Ben, la personne, en tout cas, mais je pense que oui, on a le nom, là. Elle disait, j'étais tellement généreux, je m'en rendais pas compte. Puis à la fin, je regardais ça, puis je suis comme, un, c'était de l'acquis. Fait que les gens appréciaient même plus en pensant que j'étais une banque à Python. Puis deux, je voyais les sommes immenses qui passaient là-dedans. Puis je me disais, voyons, j'ai rien fait de réel et concret avec ça, là.
C'est quoi le premier move que vous faites avec 65 millions de dollars dans votre compte? Moi, moi c'est automatique. Je sais, je sais qui j'appelle puis je sais qui je joins.
Conseil financier.
Moi, je pense que ton idée de te pousser pendant quelques mois, je pense que c'est la meilleure des choses à quiconque gagne ce genre de montant-là. Pousse-toi pendant 6 mois avec les gens que t'aimes puis t'apprécies.
Écoute, le premier téléphone que je fais, j'appelle ma blonde puis je dis « Raph, ton voyage au Japon, là, on le fait là. »
Oh,
parce que c'est son voyage de rêve puis elle espère à un moment donné que je serais pas trop vieux pour aller le faire avec puis ainsi de suite. Moi, je suis rendu, j'ai peur de l'avion, j'ai peur de tout. Là. Mais 65 millions dans le compte, le premier move que je fais, j'appelle ma blonde puis je dis « Regarde, on s'en va au Japon. »
Ouais.
Ah, absolument.
Puis avec cet argent-là, tu peux te faire endormir. Là.
Tu veux dire?
Ben, tu vas dans une clinique privée à Montréal, ils t'endorment. Après ça, ils t'envoient en ambulance jusqu'à l'aéroport.
Avion, ah, ambulance. Pour prendre ton avion.
Avion, ben, ambulance jusque
c'est
là-bas.
C'est malade.
Après, ben, un jet rendu là.
Moi, j'ai un potin. Comment il s'appelait l'ex-propriétaire du Cirque du Soleil, Guy Lalaberté?
Oui,
oui. Oui.
Il déteste se faire tatouer, mais ça a l'air qu'il est tatoué à grandeur du corps maintenant.
Okay? Il l'endormait avant.
Et il y avait un tatoueur qui venait du Québec avec lequel il voulait faire absolument affaire. Puis il a fait venir son tatoueur, puis il est allé sur, le tatoueur est allé sur l'île, puis il y a comme un bateau pour les inviter, de ce que je comprends, là, parce que lui, il veut pas les inviter dans sa maison.
Uh-huh.
Fait qu'il y a un bateau pour les inviter. Puis là, il a dit « Non, sais-tu quoi, là, t'as commencé le tatouage, là, tu vas m'arrêter ça tout de suite. » Il a appelé à Montréal, il a pris un rendez-vous avec le tatoueur à Montréal, puis il s'est fait endormir, puis il s'est fait tatouer. Puis une fois que tout était fini, il s'est fait réveiller.
La vie des gens riches
là,
célèbres.
Là, il était tout tatoué. Fait que tu pourrais faire la même affaire.
Ouais, ben écoute, ça serait malade. Endormez-moi, puis réveillez-moi un coup rendu au Japon. C'est comme si j'avais été téléporté.
Ouais, c'est juste qu'il faut que les médecins te suivent. Là.
Ouais, c'est un peu moins fun pour ta blonde dans l'avion aussi. Je peux me souvenir.
Ouais, mais là, 65 millions, on voyage en classe affaires, ma chère. Comme les élus.
Mais c'est ça. Je pense que le premier réflexe que tu dois avoir avec un montant comme ça avant de passer à notre prochain sujet, là, c'est vraiment de te pousser pendant quelques mois.
Et de te méfier de tous les téléphones que tu vas recevoir.
Il y a un auditeur vraiment smart qui écrit qu'il achète Boulevard et qui augmente tous nos salaires si jamais il gagne la somme d'argent.
Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Je vais t'acheter un billet.
Il s'appelle-tu Pécopé? Quoi?
Hey, ton rire était franc, hein, Yannick?
Quand je sais que ça va me revenir d'en face, là, je vais juste avoir à dire, hey, c'est une joke.
Est-ce que je chauffe l'extrait? Ou...
pas les farces.
Hey, dernier sujet. Yes. Est-ce que tu as souvent pris le transport en commun? Toi, Pascal, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérangé dans le transport en commun
les
quand
odeurs.
Vous le preniez dans le temps?
Les gens. J'ai de la misère avec les gens en général d'une salle de cinéma, dans un restaurant, les tables sont trop proches.
Ouais.
Dans le transport en commun, c'est la proximité du monde, puis tout me dérange, même ce qui est tolérable. Fait que imagine quand il y en a un qui se sent mauvais pour vrai,
ouais.
Qu'il y en a un qui se parle tout seul en faisant l'hélicoptère avec ses bras, quelqu'un qui demande de l'argent wagon par wagon en ayant tout le temps le même speech, puis tu l'entends quand il est 3 wagons de distance de toi, puis tu sais qu'il s'en vient. J'haïs pas mal tout du transport en commun.
En fait, t'haïs les gens.
Oui, j'haïs les gens. Oui, oui, c'est ça.
Mais
les
gens,
foules,
ça reste...
les foules. Un à la fois, les gens, c'est super.
Ouais.
Mais les regroupements, j'aime
tout
pas
ensemble.
Ça.
Tout ensemble, OK. Ouais. Pascal?
Les odeurs.
Les odeurs.
Moi, le gars qui est un petit peu, comment dire, désorganisé mentalement,
ouais.
Va faire avec, mais celui qui pue,
ouais.
Ou celui qui est trop proche de moi, là, mettons, qui se tient sur le poteau à Montréal quand l'heure de pointe.
La
là.
Proximité, oui.
Pense-toi.
Moi, j'ai habité à Montréal pendant quelques mois. J'ai fait du New York aussi pendant quelques mois. Puis à Montréal, c'était pas si pire. Aujourd'hui, c'est épouvantable ce qu'on voit dans le métro à Montréal. Mais à New York, ce qui m'agressait, c'est les gens, les gens, il n'y avait pas conscience des gens qui étaient autour. Fait que si tu prenais quelqu'un qui faisait du théâtre, ben il pratiquait sa pièce de théâtre haut et fort.
C'est terrible, ça.
Alors que toi, tu veux juste te rendre à destination puis t'entendais Hamlet esti pendant 5 minutes. Mais il gueulait.
Mais même juste quelqu'un qui parle au téléphone fort.
Oui.
Ou sur speaker.
ouais, si on l'a tu pogné, hein?
Ça, c'est les nouveaux arrivants qui en ont cette mode-là, là. Le téléphone sur le speaker, là.
Ah, tabarnouche.
Mais moi, j'en ai pogné un dans un autobus Québec-Montréal. C'était pas un nouvel arrivant, là. Puis je pense qu'il emmerdait même la personne qui était à l'autre bout du fil avec ses histoires de « je suis passé devant le Costco. Hey, je suis rendu à 7 fois. Je vois telle affaire. »
C'était épouvantable.
Le chauffeur a arrêté l'autobus
pour
l'avertir.
Moi, ce qui m'agaçait dans le métro du temps où je le prenais régulièrement, c'était la proximité avec les gens qui ne savaient pas vivre. Les odeurs m'écœuraient. La maladie mentale, bien qu'on trouve ça tout à fait triste, là. Hostie, dans le transport en commun, des fois, c'était ignoble. T'entends quelqu'un à 6 heures du matin, il dit « J'étais plus capable. J'étais plus capable. Si je préférais marcher que d'endurer ça. Puis je me disais, à un moment donné, est-ce que des gens qui vont l'aider, qui vont le rentrer, qui vont l'interner?
Mes premières années à Québec, je faisais du vélo sur un parcours d'autobus express. Je voulais pas prendre l'autobus.
Il arrive des trucs dans le RTC parfois, puis c'est pas tout le temps. Des fois, c'est les chauffeurs qui nous envoient de l'information. Des fois, on peut le lire au travers des articles. Ce matin, j'ai pogné un article dans Le Soleil où il y a un maître masturbateur du nom de Jason Thompson Arsenault.
Mon père cauchemar.
Qui se promène d'autobus en autobus pour aborder des filles. Puis une fois qu'il aborde les filles, ben dans les arrêts d'autobus, les suit jusque dans l'autobus et s'assoit juste à côté. Puis à un moment donné, ben, il se met de plus en plus près de sa présumée victime pour qu'elle devienne victime. Puis à un moment donné, il le regarde dans les yeux puis qu'il se crosse.
Il a la main d'un culotte.
Puis il se crosse. Il a fait plusieurs parcours comme ça. Puis je me dis, c'est donc bien long avant qu'on sorte cet individu-là du RTC.
Là, il est barré à vie.
Il est barré à vie, mais ça fait comment pour le reconnaître? Il y a un chauffeur qui m'a écrit un matin, parce que c'est moi qui ai écrit, puis il m'a répondu. Il dit, je fais comment pour le reconnaître l'hiver?
Impossible.
Avec une tuque puis une cagoule. Là.
Ben oui, puis tu sais, à cette heure, la mode, là, c'est une cagoule, même l'été, là, avec certains.
Puis on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, le gars. Fait que, d'après moi, il pourrait se réessayer
là,
dans un autobus.
Ça fait trois condamnations multiples qu'il a, puis dès qu'il sort, il recommence.
Mais c'est pas tu sais, c'est pas d'être banni du RTC qui s'apprend à ce gars-là, là, clairement.
C'est une porte qui ferme,
là.
D'un bord.
On parle de victime, là, la plus jeune, 14 ans.
C'est horrible. Horrible.
Et puis il y a des femmes qui diront rien. Moi, honnêtement, je sais que dans ce type de scénario-là, si ça m'arrive, il va le savoir très rapidement qu'il est dans ma bulle, puis il va le sentir. J'ai pas de patience pour une proximité sexuelle qui m'intéresse pas, du tout. Mais je pense à cette fille-là de 14 ans qui peut même pas comprendre en ce moment que c'est ça qu'il est en train de faire, puis qu'il y a des étapes dans son stratagème, puis qui, même s'il y a un siège de libre à côté, il va pas se tasser avant qu'il se rende la main sur son filet de porc.
Mais c'est de notre faute, parce qu'on le relâche tout le temps à la fin de la sentence,
oui.
Alors qu'on sait qu'il va recommencer cinq minutes plus tard, puis effectivement...
En 2023, il avait pogné 17 mois, Denis. Là, il est ressorti, puis il a recommencé à se branler.
Ben, c'est comme quelqu'un que tu dis dans sa sentence, « Hey, tu pourras plus aller sur Internet. » Moi, ce qu'on va faire, savoir ça, nous autres, qui ne va jamais sur Internet. Il faut qu'il soit surveillé 24/7 tout le temps. Les policiers ne font pas ça. Donc, c'est un gars qui va demeurer une bombe à la mèche très courte qu'on va repitcher sur les parcours du RTC. Oui, mais il est banni, M. Gravel. Ouais, mais ça...
L'hiver, tu fais comment?
Il va changer de foulard, puis il va être correct. Là.
Exactement. Ce gars-là devrait être en institut, parce que visiblement, il n'est pas capable de comprendre qu'il faut qu'il arrête de se branler. Puis en passant, je veux pas diminuer en rien le malheur des victimes. Là, c'est juste un gars qui se branle à côté des filles. Ça peut être très traumatisant. Mais le jour où il va décider de taponner, le jour où il va décider d'en prendre une dans un coin...
Mais là, c'est nous autres qui attendons.
C'est quoi que la police va dire?
Puis t'as raison de le spécifier. Moi, je pense pas que la place de ce gars-là, c'est en prison. Là. Mais,
non, c'est un asile.
Mais
ils sont pas.
C'est ça. Ça prend une porte qui ferme, puis il y a un bord.
Mais clairement, c'est un déviant sexuel. Il n'y a pas d'autre terme.
Mais qu'il soit quoi que ce soit, on peut-tu protéger notre monde?
C'est ça
qui devrait être la priorité.
En psychiatrie, il y a quelque chose là, à faire d'important avec l'individu.
Puis je salue le juge Steve Magnan, qu'on a connu quand il était maître Magnan. C'est un gars avec un bon jugement, puis il a refusé de lui accorder sa liberté provisoire en attendant l'issue de son procès.
Le CV est trop long. Il y a trop de... Non, pas Pascal CV, le CV en tant que tel. Pas le Caron Vézina, le curriculum vitae. Yann.
Mais bref.
On ça ne va... fait pas de belles jambes.
Fait que son nom, je vous l'ai dit tantôt, là, c'est... je l'ai ici... Jason Thompson Arsenault. Retenez ce nom-là. Probablement que d'ici 3, 4, 5 ans, son nom va repopper. Puis il va avoir fait de nouvelles victimes. Parce que la société dans laquelle on est pardonne ce genre de crime-là en disant... Pauvre petit, faut y laisser une autre chance.
Puis
mais si c'était ta sœur, si c'était ta conjointe, tu laisses-tu sortir?
C'est parce qu'on donne de la responsabilité à des gens qui sont pas capables d'en prendre. Tu sais, à un moment donné, il faut appeler un chat, faut appeler un malade, puis un danger. La priorité, ça devrait toujours être de protéger les gens des dangers et des criminels et des gens qui ont des problèmes qui sont pas capables de gérer. Lui, il y a trois histoires distinctes. Je me corrige. Trois condamnations distinctes pour de multiples victimes. Puis on fait toujours la même chose avec, puis il repart, puis il recommence.
Puis avant ça, il faisait quoi? Parce que je vais toujours me rappeler la phrase que je répète souvent. Il y a une femme qui travaille avec les délinquants sexuels en psychiatrie qui dit « Si vous voyez un exubérant, un hurluberlu qui se la sort dans un lieu public, puis vous faites « Ah, c'est drôle! » Dites-vous que c'est peut-être le début d'un processus X. À quelle étape il était rendu, lui, quand il se la sort puis qu'il se branle dans l'autobus, là? Est-ce qu'avant, il se l'était montré en ville? Est-ce qu'il y a
On sait jamais.
Fait que c'est tout le temps à signaler, puis il y a des gens qui nous écrivent au 88-971-102 en disant « Moi, si je l'avais pogné dans l'autobus, je serais intervenu. Mm. » Mais y a-tu des gens qui ont vu quelque chose, qui n'ont rien fait aussi?
Puis, je veux dire, le phénomène des gens qui se branlent là, au centre-ville de Québec, là, c'est pas nouveau. J'ai déjà, je pense que c'est à toi, je l'avais raconté, Denis, la mère de mes enfants, on n'avait pas encore nos enfants, mais notre appartement a donné directement dans les escaliers qui font la transition entre la Basse-Ville et la Haute-Ville,
oui.
Juste à côté du Lépine et Cloutier, à côté des cinémas Charest.
Oui, oui, oui.
Puis l'appartement, j'étais au troisième étage. Puis elle, elle habite à Lévis, OK, pendant que je la fréquentais. Elle habitait à Lévis, tout allait bien à Lévis. Il n'y avait pas de criminel à Lévis. Fait que quand elle arrivait le soir, elle laissait les stores ouverts, puis elle allumait la lumière dans la cuisine. Jusqu'à temps que je lui dise, écoute, faudrait peut-être que tu fermes les stores quand t'es là. Surtout que moi, je suis pas là, puis les gens peuvent voir que t'es seul dans la maison. Puis il y a du monde un peu bizarre qui se promène dans ces escaliers-là. Puis un certain soir, le soleil venait de se coucher. Puis là, tout d'un coup, justement, elle est dans la cuisine, puis elle allume la lumière, elle ferme pas les stores. Puis là, tout d'un coup, elle entend un bruit. Elle regarde des marches, puis le gars est en train de la regarder, puis il se branlait.
Ah, calvasse.
À partir de ce moment-là, naturellement, quand j'arrivais chez moi le soir, les stores étaient toutes fermées. Ça aurait pris ça.
C'est pas drôle, tu sais.
Non, mais écoute.
Je serais traumatisé, moi, je serais jamais retourné chez vous.
C'était assez particulier. Puis le gars, il avait parlé au travers de la fenêtre.
Ah,
oh, Simonac.
C'était assez particulier. Midi 34, on revient. Boulevard 102.